Radio de la Paix, il est 7 heures.
Le journal de 7 heures.
Marthe Cacou.
Nous sommes le jeudi 18 avril 2019, à présent les faits majeurs. Les États-Unis décident d'octroyer 2 millions de dollars, soit 1 milliard de francs CFA à 500 associations ou coopératives de femmes de Côte d'Ivoire pour le financement de leurs activités commerciales. Annonce faite par la conseillère spéciale du président américain lors du premier sommet régional sur le financement de l'entrepreneuriat féminin. Nous y reviendrons. Économie toujours, Assemblée générale élective de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers. Le directeur général de Versus Bank a été reconduit à la tête de la structure pour un mandat de 2 ans. Tout à l'heure, il parlera des priorités de sa mission et fera le bilan des activités. Présidentielle en Mauritanie, la date du scrutin a été officiellement fixée au 22 juin et un éventuel second tour au 6 juillet. À suivre encore dans cette édition, la revue des titres de vos journaux avec Souleymane Katier. Et pour finir, l'invité de la rédaction, il s'agit de la secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice, chargée des droits de l'homme, Aimée Zébéyou, expliquera les raisons qui militent en faveur de l'organisation d'une campagne nationale de promotion des droits de la jeunesse. Bonjour à tous. Entrepreneuriat féminin, le premier sommet régional d'Afrique de l'Ouest de l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs s'est ouvert hier à Abidjan. Ce symposium a réuni des dirigeants de banques de développement multilatérales. Des représentants gouvernementaux jouant un rôle clé dans l'initiative Wi-Fi, des leaders du secteur privé et des femmes entrepreneurs. La conférence s'est déroulée en présence d'Ivanka Trump, la conseillère spéciale du président américain, témoin pour la Radio de la Paix, Jean-Claude Mabia.
Deux témoignages de femmes entrepreneurs ont marqué ce sommet. Il s'agit d'abord de l'ivoirienne Patricia Zundi Iao.
J'ai eu 17 années en tant qu'entrepreneur. Après avoir créé 3 entreprises qui emploient 60 personnes, qui n'ont toujours pas eu accès à du financement. Et j'espère qu'avec Wi-Fi, ce chemin de croix va s'arrêter aujourd'hui.
Et la nigérienne Nafisa Amidou Abdoulaye.
C'est vraiment compliqué d'être femme, musulmane et entrepreneur. Ça, je vous garantis. Mais quand même, j'ai osé.
Séance à le président de la BAD a pris l'engagement suivant à Kingumi Adesina.
Le témoignage qu'on vient d'écouter de la part de Nafissat et aussi de Patricia, c'était vraiment très émouvant. Et moi, je prends l'engagement pour les deux. Ils sont où là, les deux?
En Côte d'Ivoire, selon le vice-président Daniel Kablan-Duncan, les femmes sont au cœur de la stratégie du gouvernement ivoirien.
Dans le cadre de l'appui à l'entrepreneuriat féminin, l'État ivoirien a mis en place plusieurs fonds spéciaux en faveur des femmes, parmi lesquels le Fonds national Femmes et Développement, le Fonds pour la promotion des PME et l'entrepreneuriat féminin et le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, bien connu des Ivoiriennes, qui est une brillante initiative de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Avec un capital actuel de 12 milliards de francs CFA, elle a permis à 170 000 femmes de bénéficier de prêts pour la création d'activités génératrices, donc de revenus.
Deux panels sur le financement des projets des femmes entrepreneurs de la sous-région et l'adresse de la première dame Dominique Ouattara ont mis un terme à ce premier sommet.
La section ivoirienne de l'ONG Aide et Action Internationale a procédé mardi au lancement à Bondoukou d'un projet d'insertion socio-professionnelle de 100 jeunes de la région du Gontougo et âgés de 16 à 30 ans. Ce programme intitulé Éclat, entendait être comme les autres par le travail, vise à former des jeunes, filles et garçons, dans divers corps de métiers en vue non seulement de leur auto-emploi, mais aussi de leur permettre de trouver un emploi salarié. Les détails avec vous, Émile Yaou.
Soutenir l'insertion socio-professionnelle et économique de 100 jeunes de la région du Gontougo âgés de 16 à 30 ans, dont une cinquantaine de jeunes filles. Objectif que vise l'ONG Aide et Action Internationale Côte d'Ivoire à travers le projet Éclat, être comme les autres par le travail. Sylvain Koffi, directeur pays de cette organisation en Côte d'Ivoire.
De manière concrète, nous entendons faire en sorte que pour les 100 jeunes qui seront impliqués dans ce projet, il puisse y avoir pour eux une possibilité d'insertion professionnelle automatique. Une fois qu'ils seront identifiés à travers un processus de sélection. Sur la base participative, nous allons recenser les différents métiers que les jeunes voudront eux-mêmes apprendre pour la vie, bien entendu avec un appui conseil des entités locales qui ont cette potentialité d'accompagner les jeunes en les aidant surtout à s'auto-employer aussi à gagner un emploi salarié.
Ce projet pilote financé à hauteur de 70 millions de francs CFA par l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire pourrait s'étendre à d'autres localités du pays, indique Sylvain Koffi.
Le projet en tout cas va commencer ici à Bonoku comme une phase pilote, et si les résultats sont bons, nous le souhaitons d'ailleurs de tout cœur, c'est d'arriver aussi à l'étendre dans d'autres parties de la Côte d'Ivoire, à même d'accompagner ces jeunes qui restent dans le besoin.
Christophe Niagbo, président de l'ONG nationale Soleil Levant Éducation, chargé de la mise en œuvre du projet, appelle alors à la mobilisation des jeunes.
Il est temps déjà de dire aux jeunes de 16 à 30 ans qui veulent embrasser un métier de venir s'inscrire au siège de l'ONG Soleil Levant Éducation.
Émile Yao, Bondoukou, Radio de la Paix.
Économie encore, le directeur général de Versus Bank a été reconduit par ses pairs pour un nouveau mandat de 2 ans à la tête de l'Association des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. C'était mardi au siège de l'APBFCI au plateau lors de l'Assemblée générale élective au cours de laquelle Guy Coisan a été plébiscité. Il évoque ici les priorités en termes d'action durant les années à venir, non sans dresser le bilan du mandat écoulé.
À notre prise de fonction en 2017, nous avions en tête le renouveau dans la continuité. Cette vision était justifiée par la nécessité de conserver les acquis sous d'autres mandatures, ainsi que créer un besoin de flexibilité au changement de l'environnement bancaire. Et nous avons donc obtenu l'adhésion de nos membres qui ont permis à leurs activités d'évoluer dans le sens que nous souhaitions. L'ensemble des banques avait connu une croissance par rapport à l'année précédente de près de 15% pour s'afficher à 12 695 milliards avec un total dépôt à la même date qui connaît une croissance également de 15% pour s'établir à 8 600 milliards et avec également un total crédit qui connaît une croissance moyenne annuelle de 13% pour s'afficher donc à fin décembre à 7 000 milliards. Nous continuons à mener notre réflexion et nous allons nous focaliser surtout sur la lutte contre la pauvreté. Nous avons donc indiqué à nos pairs que nous allons mettre en place un comité chargé du logement, un comité chargé du développement durable, etc. Donc nous allons travailler dans ce cadre-là pour adresser au mieux tous les problèmes qui concernent notre clientèle, qui concernent l'économie nationale et qui permettent aux Ivoiriens de mieux vivre.
Vous écoutiez à l'instant Guy Coisan, président de l'Association des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. La promotion de la paix dans le pays était le sujet central de l'Assemblée générale de la Fédération ivoirienne des associations, centres et clubs. UNESCO, la FIAQ, a convoqué pour l'occasion à l'hôtel du district au plateau ses membres pour discuter de cette question et désigner le nouveau délégué fédéral. Compte rendu, Jean-Claude Comi.
Rencontre annuelle des clubs UNESCO, certes, mais prétexte également pour parler de paix et de cohésion sociale. Au vu du contexte sociopolitique dans le pays, c'est ce qui justifie le choix de ce thème, explique Kwaku Anébertin, président de la FIAQ.
L'objectif des clubs UNESCO, c'est de mieux faire connaître la mission de l'UNESCO et les programmes de l'UNESCO. Or, qui dit mission de l'UNESCO, c'est de construire la paix dans le cœur et l'esprit des hommes. Et des femmes.
Cette contribution à la consolidation de la paix se fera en collaboration avec la Fédération Sœur des clubs UNESCO des États-Unis. Son président donne ici une idée de ce qui se fera sur le terrain. Guy Djokem.
Ce que nous comptons faire ici de manière pratique, c'est de planter les idéaux de paix par des messages de sensibilisation. Les conflits, c'est quelque chose qui est inné à l'homme. Ce qui est important, c'est de donner des outils aux gens comment résoudre ces conflits de manière pacifique. Adresser certains éléments tels que la peur, l'incompréhension, la dignité.
Après part à cette assemblée générale, Dr Bamba Seydou, sous-directeur chargé de l'administration à la Commission nationale UNESCO, qui salue cette initiative de promotion de la paix.
En Côte d'Ivoire, le président parle d'émergence à l'horizon 2020. Cette émergence ne peut être atteinte en dehors de la paix. Donc tous ceux qui ont des initiatives pour ancrer la paix dans le cœur des Ivoiriens sont les bienvenus.
Au terme de cette assemblée générale, a été élu comme nouveau délégué fédéral M. Koffi Tano Roger, délégué régional des clubs UNESCO du Sud Comoé.
Partenariat public-privé au niveau de la recherche scientifique. Le secrétaire exécutif du programme d'appui stratégique à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire a animé hier au Centre suisse de recherche scientifique un point de presse. Le but était de présenter le programme des organismes de subvention. Dans ce sens, deux projets d'enseignants-chercheurs ivoiriens vont bénéficier d'un appui financier d'environ 30 millions de francs CFA sur les objectifs et les retombées. On écoute Dr Sangaré Yaya, le secrétaire exécutif du PASRES.
Depuis 2015, le PASRES participe à un programme très important. Et ce programme, c'est l'initiative des organismes subventionnés de la recherche africaine. C'est une initiative qui a pour objectif stratégique de renforcer les capacités des organismes de financement de la recherche en Afrique, surtout en Afrique au sud du Sahara, à renforcer les liens entre la recherche et le secteur privé et permettre aux organismes de financement de travailler entre eux, de mutualiser leurs ressources. C'est la première fois en Afrique que les organismes de financement de la recherche travaillent ensemble au bénéfice des chercheurs. Nous sommes des organismes de soutien à la recherche. Nous sommes des organismes de financement à la recherche. Nous devons faciliter le travail des chercheurs qui sont là, des universitaires. La transition vers des économies fondées sur le savoir a placé le savoir au centre du commerce, des investissements, de la production et du développement socio-économique des nations. La contribution des organisations productives de connaissances, c'est-à-dire les centres de recherche, les universités, leur lien avec le secteur privé et le potentiel d'échange de connaissances et de transfert des technologies sont devenus essentiels dans la compétition entre nations. Les partenariats publics-privés dans la recherche et l'innovation offrent une opportunité de co-création et d'échange de connaissances et de produits associés avec le secteur privé.
Docteur Sangaré Yaya, secrétaire exécutif du PASRES, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. J'ajoute que le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire est fondé en 1951. C'est une institution de recherche pluridisciplinaire placée sous la double tutelle des ministères chargés de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire et en Suisse. Cette structure travaille dans les domaines de l'environnement, de la santé, de la sécurité alimentaire et de la biodiversité. Ce centre conduit dans le pays, en Côte d'Ivoire, un programme de renforcement des capacités de la recherche ivoirienne, le PASRES, financé par la coopération suisse. Protection de l'environnement, la Côte d'Ivoire veut s'impliquer dans la lutte contre le changement climatique. Une contribution qui passe par une restauration de son couvert forestier à hauteur de 20% à l'horizon 2030. Pour atteindre ce résultat, des comités régionaux RED+, entendaient réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts sont installés à l'intérieur du pays. Benson Kofi, notre correspondant dans le Bas-Sassandra, revient sur l'étape de San Pedro.
Le mécanisme RED+, qui vise à accompagner et récompenser les pays dans leurs efforts de préservation des forêts, a été présenté par le commandant Kessé Brouané, secrétaire exécutif permanent RED+.
Le mécanisme RED+, c'est un défi parce que dans sa mise en œuvre, le mécanisme va améliorer les conditions de vie des populations. En même temps, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Quand on vient, les arbres sont sur pied, on calcule les stocks de carbone que ça va engranger et on vous paye. Donc, si tu n'as pas d'arbres, si tu n'as pas de carbone, on ne peut pas te payer. Donc, l'accent est mis beaucoup sur la pérennisation. Si on dit aux populations de ne pas couper les bois, il faut les accompagner à produire eux-mêmes du bois. Quand tu dis aux charbonniers de ne pas couper les bois, il faut mettre en place des parcs à bois, c'est-à-dire des espèces à croissance rapide pour qu'eux-mêmes ils plantent et puis après ils vont prélever la ressource pour pouvoir faire leur activité économique. Actuellement, nous vivons les effets du changement climatique. Vous voyez les dérèglements des calendriers culturels. Nous avons des inondations partout et donc il y va de leur survie.
Quelques priorités avec le colonel Tissé Tokpa Bernard, secrétaire général du nouveau comité régional RED+.
La forêt aujourd'hui, c'est l'élément principal de nos activités économiques qui est l'agriculture. Et cette forêt-là est aujourd'hui dans un état vraiment inquiétant. Donc la priorité du comité qui vient d'être installé, c'est d'abord informer la population sur le mécanisme RED+ qui lutte contre les émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts.
Notons que ce comité est composé de différents acteurs impliqués dans le monde agricole. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la paix.
Direction la Mauritanie, le premier tour de l'élection présidentielle a été officiellement fixé au samedi 22 juin et un éventuel second tour au 6 juillet selon un décret présidentiel consulté hier par l'agence France Presse. Et puis au Sénégal, le gouvernement a adopté hier un projet de révision de la Constitution, projet devant aboutir à la suppression du poste de Premier ministre. C'est la première mesure du second mandat du président Macky Sall, rapporte l'AFP. Crise politique au Mali, des députés de l'opposition et de la majorité ont déposé hier à Bamako une motion de censure contre le gouvernement. Le scrutin aura lieu demain vendredi pour être adopté. La motion devrait être votée par les deux tiers de l'Assemblée nationale, soit 98 sur 147 députés, nous apprend la presse malienne. L'heure est venue de parcourir les quotidiens parus ce matin. C'est avec Souleymane Katier qui vient de nous rejoindre. Bonjour Katier.
Bonjour Marthe, bonjour à tous.
Souleymane Katier, l'actualité est dominée par le sommet ouest-africain sur le financement des femmes entrepreneurs.
Et pourtant, mis à part Fraternité Matin, très peu de quotidiens consacrent leur une à cet événement. Malgré son envergure internationale et son impact certain pour les populations, l'événement constitue le titre principal du journal à capitaux publics qui cite les propos du vice-président Daniel Kablan-Duncan. L'Afrique du 21e siècle doit être féminisée, avant d'ajouter que les États-Unis et des multinationales décaissent plus d'un milliard de francs CFA pour les femmes dans la cacao culture. Le jour plus avec la photo de Mélenchon Trump comme illustration, annonce 727 milliards de francs CFA pour le financement des projets. Quand le patriote présente cette visite d'Ivanka Trump en Côte d'Ivoire comme une autre preuve d'un pays qui compte. La presse s'intéresse également aux activités du président du Conseil économique et social, nommé récemment pour siéger au sein du comité conjoint d'examen des rémunérations des administrateurs exécutifs du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Soir Info nous apprend que Charles Kofi Dibi prend part aux travaux de la Banque mondiale et du FMI. En une du Patriote, on peut lire à propos de cette réunion les orientations de Dibi Kofi et pour l'Inter, Charles Dibi Kofi prend ses marques. Dans la sphère politique, c'est le meeting de Simone Gbagbo à Bondoukou en fin de semaine dernière qui fait réagir la classe politique, notamment le RHDP qui n'a apparemment pas apprécié les propos tenus par l'ex-première dame à propos de la libération des prisonniers militaires et de la réforme de la CEI. Le Jour Plus déclare que Kobenant Kwasi Adjumani répond à Simone Gbagbo. L'expression nous dit que Adjumani recadre Simone Gbagbo et le mandat d'ajouter, en citant les propos attribués au porte-parole du RHDP, la CEI n'est pas à la base de la crise de 2011. La crise au sein du Front populaire ivoirien qui connaît aussi un nouveau virage, Soir Info révèle une importante victoire d'Affine Guessant dans la bataille pour le contrôle du FPI et on en apprend un peu plus en une de Notre Voix où l'on peut lire, traduit en justice en France, Affine Guessant remporte la bataille du logo FPI. Pendant ce temps, l'autre aile du parti prépare la fête de la liberté. Émile Girioulou annonce dans le temps, nous préparons 2020 autour de notre leader. Et puis la fête de Pâques, c'est dans quelques jours. Le pays baoulé est déjà en effervescence. Les transporteurs s'en frottent les mains. L'Inter nous apprend qu'une compagnie atteint un record de 90 départs par jour.
Souleymane Katier qui reviendra à 8h pour le même exercice. Les 5 dernières minutes de ce journal sont consacrées à l'invité de la rédaction qui est la secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice chargée des droits de l'homme. Dans cet entretien conduit par Jean-Claude Comé, Aimé Zébéyou évoque notamment les motifs qui justifient l'organisation d'une campagne nationale de promotion des droits de la jeunesse en collaboration avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, puis le secrétariat d'État chargé du service civique.
Madame le secrétaire d'État chargé des droits de l'homme, Aimé Zébéyou, bonjour.
Oui, bonjour.
Votre ministère a organisé récemment une cérémonie pour lancer une caravane dans le sens de sensibiliser les jeunes sur leurs droits. Et cela est parti de quel constat?
De façon générale, il est censé ignorer la loi, mais dans la pratique, on constate que bon nombre de gens ne connaissent pas leurs droits. Et avec notre implication à cet état généraux de la jeunesse. On a eu donc pour l'idée de lancer cette campagne de sensibilisation en ce qui concerne les droits de l'homme. On a donc tous les droits qui sont concernés, les droits de la jeunesse, les droits de l'enfant, les droits de la femme, Nous savons que les dispositions de l'article 34 de la Constitution fait du temps, n'est-ce pas, qui concerne les droits de la jeunesse. Et ça permettra donc de les informer sur vraiment un certain nombre de points qui étaient importants du débat.
Alors, Madame le secrétaire d'État, justement, quels sont les éléments à mettre en avant en ce qui concerne les droits de l'homme, notamment des jeunes?
Les droits d'éducation, pour les jeunes, la base même, il faut qu'ils aient une bonne éducation parce qu'ils sont l'avenir et ils doivent être formés. Et c'est ce qu'il faut les impliquer. En fait, ils doivent connaître leurs droits et puis ils doivent aussi connaître leurs devoirs.
On note aujourd'hui, parlant des jeunes, que de plus en plus cette jeunesse, surtout au niveau politique, s'engage. Et à cette occasion, le ministre Touré a encouragé en tout cas la responsabilisation des jeunes dans les partis politiques. C'est l'un de leurs droits aussi de jouer les premiers rôles, selon vous?
Ils ont le droit d'entrer en politique, comme dans les associations. En fait, on a essayé de leur faire comprendre qu'ils ont des droits dans tous les domaines, mais ils doivent se former et d'être des responsables. Aller dans un parti politique en ayant des idées et voilà des objectifs. On leur a fait comprendre que pour émerger, il faut avoir des professions et il faut aussi avoir des qualifications professionnelles vraiment dans certains domaines. Et on leur a permis de jouer leur partition dans la vie associative. C'est une manière aussi de jouer leur rôle dans le développement de leur pays. Quand vous êtes dans la vie associative, ça vous permet de devenir des leaders.
Ces jeunes aujourd'hui, hein, vous avez insisté sur leurs droits et devoirs, mais qu'est-ce que vous comptez dire à ces jeunes-là? C'est vrai, ils ont des devoirs, mais en termes de respect aussi de l'autre, qu'est-ce qu'ils doivent retenir?
Ce qu'ils doivent retenir, c'est de leur faire comprendre qu'ils doivent éviter d'être instrumentalisés par les politiques. Est instrumentalisé, c'est-à-dire qu'ils vont dans la même partie, c'est que le ministre qui est mieux placé que moi, là, je comprends. En plus, ils doivent éviter la violence, ils doivent respecter les institutions. C'est quand même important parce que s'ils ne respectent pas les institutions, demain, et même quand ils auront le pouvoir, personne ne va respecter les actes qu'ils vont poser aussi. Voilà, c'est ça en fait. Et puis, c'est toujours important d'être instruit, de connaître ce qu'on appelle les droits de l'homme universel, de connaître les droits de la jeunesse, et de s'approprier la charte africaine de la jeunesse. C'est ce qu'on a essayé de faire ressortir en faisant projeter un film pour qu'ils sachent le contenu de ces différents droits à la santé, droits à l'éducation, droits à la liberté d'expression, droits à l'associatif. Mais tout ça doit se faire dans le respect de l'autre, comme on dit, ma liberté. S'arrête là où commence celle des autres. Il faut au-delà de ça cultiver des valeurs.
Alors, parlons de la campagne nationale proprement dite de cette promotion des droits des jeunes. Quelles sont les différentes articulations?
Il y aura deux ateliers au sein du secrétariat. On va regrouper un groupe de 50 jeunes. Et puis ensuite, on va donc aller aussi à l'intérieur du pays. Et on a aussi Bassam où des jeunes de là-bas ont demandé au secrétariat du Saint-Charles des droits de l'homme de venir aussi leur expliquer un certain nombre de droits. Donc, par rapport à leur thématique qu'ils souhaiteraient qu'on développe, voilà. Là, on ira à Bassam bientôt pour développer après donc ces ateliers qui vont avoir lieu.
Donc, hormis l'aspect politique, vous allez aussi insister sur d'autres aspects de la vie de ces jeunes Ivoiriens.
Oui, c'est des thématiques qu'eux-mêmes, ils ont préféré qu'on développe parce qu'ils doivent savoir qu'ils ont le droit de vote, ils doivent savoir qu'ils ont le droit d'être candidats, ils doivent savoir qu'ils doivent avoir des opinions, ils doivent savoir que tout en allant avoir le droit de vote, ils ne doivent pas évoquer des violences sur les gens. Donc, on a profité aussi pour faire venir les représentants du secrétariat d'État chargé du civisme, impliquer les valeurs du civisme. Voilà. Nous souhaitons qu'à cette occasion, il y a certains points, surtout au niveau du civisme, qui soient. Et il faut qu'on leur explique l'emblème, qu'est-ce que c'est, vraiment l'origine, c'est important qu'ils le sachent. Voilà.
Madame le secrétaire d'État chargé des droits de l'homme, merci à vous.
Merci beaucoup.
L'invité du jour, Mézé Beyou, se prêtait aux questions de Jean-Claude Comi. Et pour clore le rappel de l'essentiel. Les États-Unis décident d'octroyer 2 millions de dollars, soit 1 milliard de francs CFA à 500 associations ou coopératives de femmes de Côte d'Ivoire pour le financement de leurs activités commerciales. Annonce faite par Ivanka Trump, la conseillère spéciale du président américain lors du premier sommet régional sur le financement de l'entrepreneuriat féminin qui s'est tenu hier à Abidjan. Économie toujours, Assemblée générale élective de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers. Guy Coison, le directeur général de Versus Bank, a été reconduit à la tête de la structure pour un mandat de 2 ans. Présidentielle en Mauritanie. La date du scrutin était officiellement fixée au 22 juin et un éventuel second tour au 6 juillet.